avance tout ce temps. Nous avons besoin de ta parole vivante, de ta miséricorde, de ta grâce. Montre-nous ce qu'il y a sur ton cœur, parce que personne d'autre sait ce qu'il y a sur ton cœur. Personne d'autre que ton esprit. Seigneur, remplis cette réunion avec ta présence et avec ton esprit. Nous t'ouvrons nos cœurs et donne-nous ta lumière dans nos cœurs. Louez le Seigneur pour ce temps. Nous continuons dans Ésaïe. La première partie était vraiment glorieuse. Mais au début, Dieu doit vraiment exposer notre état malade. Et il le fait dans son amour. C'est par son amour que Dieu expose notre état malade. Quand le Seigneur est venu sur cette terre, il est venu comme un médecin. Et il a dit, il est venu pas pour soigner ceux qui sont en bonne santé. Ceux qui sont en bonne santé, ils n'ont pas besoin d'être guéris. Il n'est pas venu pour soigner les justes, mais il est venu pour soigner les pécheurs. Ce n'est pas juste une question de pardon, mais c'est une question d'être guéri, de guérison. Et je crois que le Seigneur, à travers cette parole de Jérémie, nous a aussi montré clairement, au chapitre 17, que notre cœur est vraiment tordu, plus tordu, tortueux par-dessus tout. Et il est malade à un tel point qu'il ne peut pas être soigné. Peut-être que tu ne le remarques pas. Il y a beaucoup de maladies intérieures dans notre corps, dans notre... qui peuvent être des maladies très graves, mais qu'on ne remarque pas. C'est vraiment comme ça. Notre cœur nous trompe. Le premier qui trompe ton cœur, c'est toi-même. Que le Seigneur nous montre encore plus qu'il est le médecin qui nous soigne, qui nous guérit. Il nous montre aussi comment il nous soigne, comment il nous guérit. Si nous ne voulons pas entendre, alors c'est le jugement qui vient. Ne pense pas que Dieu n'est qu'amour, et amour, amour et amour. Chapitre 13 d'Ésaïe, il commence avec le jugement. Mais à la fin de ce passage, jusqu'au chapitre 41, il montre comment ce qui rétablit son peuple, mais c'est pas sans jugement. J'ai regardé au travers du classeur de chants si nous avons un chant, ne seulement un chant, sur le jugement. C'est vraiment un thème qu'on n'apprécie pas trop. Personne ne parle du jugement. On parle volontiers de l'amour, de la grâce, que Dieu est miséricordieux, que Dieu est ceci, cela, tolérant. Mais il veut nous sauver. Qu'il veut nous sauver, ça on en parle, mais personne ne parle du jugement. Est-ce que tu aimes entendre parler du jugement, frère? Le jugement. Qui aime le jugement? C'est pour cela que dans notre classeur de chants, j'ai regardé. J'ai cherché toutes ces rubriques des chants. J'ai trouvé aucune rubrique de thème sur le jugement. Ce n'est pas tellement dans nos représentations. Nous n'acceptons pas vraiment cela. Dans ce temps où tout est libéral, tout est permis. Tout est permis. Même les groupes que nous avons connus. Ah oui, il ne faut pas mettre la pression. Ne dis pas cela et ne corrige personne, sinon ils partent. Et sois donc amour, Dieu est amour. Mais ça, c'est juste une partie de la vérité. C'est qu'une demi-vérité, c'est le plus grand mensonge, c'est ce qui se dit. Et à la fin, tu penses que l'amour, amour, amour, mais Dieu veut aussi nous donner sa lumière pour nous exposer. L'amour et la lumière, ça ne va pas. Le Seigneur n'est pas seulement amour, mais aussi lumière. Comme il est écrit dans Jean, il a dit « En lui, il n'y a point de ténèbres ». Et si nous disons que nous avons de la communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, c'est ok, alors il va te pardonner. Est-ce que c'est ça qui est écrit ? Non, non, non. Où est-ce que c'est écrit ? Comment c'est écrit ? Alors, ça veut dire que nous mentons, que nous ne faisons pas la vérité, et que la vérité n'est pas en toi, n'est pas en nous. La parole est très claire. Il n'y a pas besoin d'explication pour une telle parole. Le texte parle par lui-même. C'est de l'allemand. Est-ce que c'est pas suffisant? Est-ce que la traduction est mauvaise? Nous avons encore besoin de beaucoup d'explications, d'éclaircissements sur cette parole. C'est que Dieu est lumière et nous marchons dans les ténèbres. Si c'est le cas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne joue pas. Nous n'avons pas besoin de tellement d'explications pour la parole de Dieu. Et si nous voulons, nous continuons à marcher dans les ténèbres, à marcher dans les ténèbres, ne pense pas que rien ne va se passer. Mais tôt ou tard, le jugement vient. Dieu est juste. Il n'est pas le Dieu d'amour, mais il est aussi le Dieu de la justice. Il y a beaucoup d'aspects dans la Bible. Il y a beaucoup de dimensions différentes. Nous voulons juste prendre une dimension, mais ça ne va pas. Nous, souvent, nous parlons que d'une direction, nous allons dans une direction, nous mettons l'accent sur l'amour, l'amour et encore l'amour. Même que tout est déchu, on parle de l'amour. C'est ton amour déchu. C'est un amour sans justice. Que dit Paul dans 1 Corinthiens 13 ? L'amour tolère tout. Est-ce qu'il tolère tout ? Il supporte tout ? Non. Non, il ne supporte pas l'injustice. Aimer la justice. Mais notre amour ne recherche pas cette justice. Recherche plutôt l'injustice à l'inverse. C'est inversé. C'est une honte. C'est une honte si nous parlons d'un tel amour. C'est un mensonge, c'est une tromperie. Et tu trompes pas seulement les autres, tu te trompes toi-même. Et nous voyons que le jugement est nécessaire. Et la parole, la Bible parle beaucoup du jugement. Nous devons parler autant de jugement que de d'amour, de salut, de grâce. Enfin, la Bible parle autant du jugement que de tous les autres sujets. C'est pas un amour, c'est pas un thème qu'on apprécie beaucoup. Mais qu'est-ce que nous devons faire ? Seulement choisir certains passages d'Ésaïe qui nous conviennent, qu'en penses-tu? Alors, nous pouvons oublier Ésaïe. Louis le Seigneur. Si nous ne voyons pas le jugement, tu ne vas pas tellement chérir le salut. Et même si tu es sauvé, alors tu n'as aucune crainte. Les gens parlent de l'esprit, nous avons l'esprit, nous sommes en esprit, toutes ces choses, l'esprit et l'esprit. Ésaïe dit, dans cet esprit, il y a la crainte du Seigneur. Est-ce que vous vous souvenez dans Ésaïe 11? Ou est-ce que vous avez déjà oublié? Ésaïe chapitre 11, on pourrait le lire encore une fois. Même cet esprit de Jésus-Christ ruht. Je vous le lis plutôt. Il parle du Messie, notre Seigneur. C'est parce que je suis pas dans Ésaïe, c'est pour ça. C'est cet esprit, Ésaïe 11, un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence. Ça va ensemble. Et ensuite, l'esprit de conseil et de force. Ces deux choses vont ensemble, c'est important. Et l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Et ça, c'est le troisième père. C'est plein de signification. Si tu as juste la connaissance et tu n'as pas la crainte de l'Éternel, alors c'est une chose dangereuse. Parce que la connaissance elle-même t'aveugle, ça te rend orgueilleux, fier, et à la fin tu tombes. L'orgueil te fait tomber. Et la verset 3 nous montre laquelle partie plaît le plus au Seigneur, quelle est la meilleure partie, celle qu'il préfère de l'esprit. Et il respirera la crainte de l'Éternel. Il a dit, et il mettra son plaisir dans la connaissance, dans la sagesse, bien sûr, dans le conseil, la force. Qu'est-ce qui est important pour toi? Dis-le vraiment, honnêtement, qu'est-ce qui est important pour toi? Vous connaissez déjà la réponse. Mais la vraie réponse, la bonne réponse ne sert à rien. Ce qui est important, c'est la réalité qu'il y a dans ton cœur. La crainte de l'Éternel. Sans la crainte de l'Éternel, notre chair est capable de tout. Même le Seigneur, quand il vivait, pas en tant que le Fils de Dieu, de toute façon, il est, mais en tant qu'homme, qui a vécu sur cette terre, dans un corps de chair, de péché, il a été tenté en toutes choses, comme nous. C'est pas une exception. Il a expérimenté chaque faiblesse des hommes. Il est passé au travers de toutes sortes d'expériences, de tentations, de difficultés. Il a été tenté par le diable, par les hommes, par les religieux. Je crois qu'en tant qu'homme, pour nous, nous abandonnons tout de suite. Mais si nous avons cette crainte du Seigneur dans notre cœur, ça va nous conserver, nous protéger dans beaucoup de situations. Cette partie, cet aspect de cet esprit merveilleux qui repose sur lui, n'oublie pas la crainte de l'Éternel. Pas seulement la sagesse. La sagesse sans la crainte, ça ne va pas. La connaissance, l'intelligence. Tu penses à la fin que tu sais tout et que les autres ne sont rien. Et tu as reçu un conseil. Et tu as la force. Tu penses seulement la force au Seigneur. Seigneur, est-ce que nous n'avons pas chassé des démons en ton nom? Ça, c'est une grande puissance. Et le Seigneur dit, je ne vous connais pas. Plus de connaissances. N'ayez pas tant d'appréciation comme ça pour la connaissance. Quand j'avais ton âge autrefois, j'avais vraiment faim de connaissance. Mais Dieu, merci, j'ai été guéri, j'ai été traité. Parce que j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup d'hommes qui avaient de la connaissance. Et à la fin, ils sont si fiers, ils veulent régner sur tout le monde et ils pensent que tout le monde doit les écouter et que ce qu'ils disent, c'est la vérité. Ils ont oublié l'expérience de Jacques qui a dit « N'ayez pas tant de connaissances. » Pourquoi ? Parce que si tu enseignes et que toi-même tu ne pratiques pas ce que tu enseignes, tu seras encore plus jugé que les autres. Jugé. Plus tu as de connaissances et que tu ne la pratiques pas, tu ne vis pas selon la connaissance que tu enseignes aux autres. Autant Romain que Jacques disent que tu reçois un jugement terrible, un grand jugement. C'est-à-dire que la connaissance sans la crainte, ça ne va pas, ça ne fonctionne pas. Je l'ai vu tellement souvent chez beaucoup d'hommes. Nous voyons ici pourquoi. Même quand le Seigneur était sur cette terre, qu'il a vécu en tant qu'homme, il a vraiment chéri cette crainte du Seigneur, de l'Éternel, parce qu'il sait que notre Dieu est un Dieu juste. Et il juge. Il juge toute injustice. Le jugement n'est pas un thème très beau, mais c'est un thème important. Moi, c'est égal si c'est un thème qui est beau ou pas. C'est égal, mais ça nous guérit, ça nous sauve. Ça nous rend sobre. Et ça nous aide beaucoup. C'est une grande aide. Louez le Seigneur. Qu'est-ce que je dois faire ce soir ? Juste parler du jugement, c'est deux, trois premières réunions, il y a beaucoup de jugement dans le résumé. On voit section 1, chapitre 13 à 27, le jugement de l'Éternel des armées sur les nations et sur toute la terre. Sur les nations et sur toute la terre. Bien sûr, aussi sur son peuple. Qu'est-ce que dit Pierre? Quand est-ce que commence le jugement? Avec toute la terre? Dites-moi encore. Par la maison de Dieu. Vous m'entendez plus? Vous m'entendez? Son jugement commence par sa maison. Nous voulons l'amour, nous voulons la connaissance, nous voulons beaucoup d'activités. Nous faisons ceci, cela. Faisons tellement de choses, mais personne a entendu ce que Pierre a dit. Dans 1 Pierre 4:17, il dit le jugement commence par la maison de Dieu. Par la maison de Dieu, c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. 1 Pierre 4:17. Mais malheureusement, nous n'enseignons pas tellement ça. Nous n'aimons pas entendre ça. Nous avons peur quand nous disons cela. À la fin, la salle est vide si nous disons ça. Personne ne vient plus. Il y a une grande, méga église au Texas où il y a plus de 4000 personnes. Et la question est, pourquoi est-ce que tu n'enseignes pas, tu ne prêches pas sur le jugement éternel? Même Jean 3, 16, est-ce que c'est pas écrit que nous recevons la vie éternelle et que nous ne sommes pas perdus? Hein, si tu parles d'être perdu, les gens partent. Et quel était son évangile? Tu fais ce qui te plaît. Si ça te plaît et que tu as de la joie là-dedans, alors Dieu se réjouit aussi. Alors fais ce qui te plaît, ce qui te procure de la joie. Bien sûr que j'entends aussi volontiers un tel évangile. Je peux faire tout ce que je veux, je peux faire tout ce qui me fait plaisir. Et alors, Dieu se réjouit aussi. C'est pas étonnant qu'il y ait plus de 4000 hommes dans une telle église. On peut aussi refaire ça, on peut faire des présentations dans l'église, à l'université. Ça, c'est pas l'évangile, c'est un mensonge. C'est contre la vérité. Si tu enseignes, tu prêches que ce que le Seigneur a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Qui apprécie une telle parole? Qui entend volontiers ça? Est-ce que tu as envie de renoncer à toi? Oui, louez le Seigneur. Au moins, il en a un qui se réjouit, qui fait volontiers, qui renonce volontiers à lui-même. Nous devons tous dire dans notre cœur oui, parce que nous voulons le suivre. Et à la fin, dans la Bible, dans Apocalypse 14, il dit ceux-là, ceux qui ont suivi l'agneau partout où il va. Où il va? Au cinéma, dans un bar, boire? Bien sûr que non. Le Seigneur va souvent aux endroits qui ne te plaisent pas. Faire du ski. Faire du foot, du sport. Je ne crois pas que le Seigneur va t'emmener là. Mais le Seigneur te conduit dans la gloire, au trône. Et notre moi est tellement déchu, et tout ce que nous voulons faire est contre ce que le Seigneur veut faire, est complètement opposé. Tous mes désirs, mes pensées, toutes plein de choses dans notre être auquel nous tenons. Nous n'obéissons pas, nous n'avons pas la crainte du Seigneur. C'est ainsi, mais la Bible nous donne un avertissement. Si nous faisons ce que nous voulons, ce que cette chair veut faire, la Galates, Philippiens, même la lettre aux Corinthiens, des personnes qui agissent ainsi ne vont pas hériter le royaume de Dieu, c'est certain. Mais même de la même manière, dans Galates 6, il dit Dieu, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il va aussi le récolter. Ne dis pas que tu es déjà sauvé, tu es chrétien, maintenant tu fais ce que tu veux. Non. Si quelqu'un sème pour la chair, qu'est-ce qu'il va récolter? Il va récolter la mort. Comment est-ce que nous marchons? Est-ce que nous marchons dans la chair ou par l'esprit, en esprit? Galates 5. Il n'y a que ces deux choix. Le jugement est important. Ce soir, j'ai écrit quelques versets dans le résumé. Enfin, non, je les ai écrits là parce que je n'avais pas de papier. Merci parce que tu as mis une page vide encore dans le petit résumé. Comme ça, j'ai pu noter des versets. Donc, il s'est noté lui-même ses versets, mais on n'aura probablement pas le temps de tous les lire ce soir. Mais sur les nations, j'aimerais lire un petit passage de Jérémie. Jérémie confirme exactement ce que Ésaïe a dit, parce qu'ils ont vécu au même temps, presque. Ils ont prophétisé presque au même temps. Jérémie un petit peu plus tard que Ésaïe, d'abord Ésaïe, mais ce qu'ils ont prophétisé se correspond. Ça confirme. Ici, j'ai écrit 5 à 17. Je ne sais pas quel chapitre. Dieu a dit ici, expliqué pourquoi ces nations étaient jugées. Bien sûr, les nations sont tellement déchues. Jérémie 12, c'est dans Jérémie 12. Le peuple de Dieu s'est révolté. Il a été désobéissant. Et ici, au Jérémie 12, verset 14, on peut tous lire ensemble, Jérémie 12, verset 14, « Ainsi parle l'Éternel sur tous mes méchants voisins. » Vois-tu, le Seigneur parle de ses voisins. Pourquoi? Parce qu'il habite là. Il habite à Jérusalem, chez Judas, dans la tribu de Judas. C'est pas Judas. C'est-à-dire que les voisins de l'Éternel des armées, est-ce que vous pouvez vous représenter ça? C'est vraiment important de voir qui est ton voisin. Qui attaque l'héritage que j'ai donné à mon peuple d'Israël. Parce que Paul, quand il a rencontré le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Paul, ou bien Saul, pourquoi me persécutes-tu pourquoi persécutes-tu mon Église? Est-ce qu'il a dit cela? Non, il a dit pourquoi me persécutes-tu me? Ça veut dire que l'Église, c'est l'héritage. Dieu a dit, celui qui touche à Sion, celui qui attaque Jérusalem, il attaque la prunelle de mes yeux. C'est ainsi, c'est dangereux. Les gens pensent, nous sommes l'Église, et faisons beaucoup de choses, ils font beaucoup de choses qui détruisent l'Église. Ils ne savent pas que la prunelle des yeux, qu'ils attaquent la prunelle des yeux du Seigneur. Et ça, ce n'est pas une petite chose. Ils attaquent l'héritage que j'ai donné à mon peuple d'Israël. Voici, je les arracherai de leur pays. Et j'arracherai la maison de Juda du milieu d'eux, particulièrement à Babylone. On voit qu'ils ont détruit la maison de Juda et ils l'ont emmenée en captivité. Mais après que je les aurai arrachés, j'aurai de nouveau compassion d'eux. Et je les ramènerai chacun dans son héritage, chacun dans son pays. Et s'ils prennent les voies de mon peuple, s'ils apprennent les voies de mon peuple, s'ils jurent par mon nom en disant « L'Éternel est vivant », comme ils ont enseigné à mon peuple à jurer par Baal, alors ils jouiront du bonheur au milieu de mon peuple. Ça veut dire s'ils se repentent. Notre Dieu est vraiment miséricordieux, mais la miséricorde a une condition. Mais s'ils n'écoutent rien, verset 17, je détruirai une telle nation. Je la détruirai. Je la ferai périr, dit l'Éternel. Louis le Seigneur. Ici, on voit que les nations, elles ont tellement détruit Israël, ils ont tellement attaqué, si souvent attaqué le peuple, et de manière vraiment agressive. Alors tu dois encore lire d'autres prophètes comme Amos et d'autres pour voir cela. Mais ici on voit que le jugement est nécessaire. Dieu ne va pas les laisser tranquilles, croyez-moi. Et de ce chapitre, de ce livre, on voit que Dieu juge. Dieu juge. On peut aussi lire Matthieu 5. Ce soir, on lit quelques... Sinon, on lit pas. On va lire pas mal de versets, mais dites pas. On lit aussi dans le Nouveau Testament, pas que vous disiez qu'on lit que l'Ancien. Le Nouveau Testament parle du royaume des cieux. Et justement, dans ce chapitre, le Seigneur parle en prêchant l'Évangile. Il a parlé tellement du jugement. Et je peux vous ressortir tout, je ne vais pas vous parler de tous les versets, mais seulement de quelques versets où on voit ça. Donc Matthieu 5, verset 22, c'est juste un choix de versets. Donc Matthieu 5, verset 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point ». C'est dans la de la loi. Celui qui tuera est passible de jugement. Il parle du jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère « Raca » mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la Géhenne. Sois vraiment attentif à ce que tu dis. Fais attention. Tu penses, c'est ok. J'ai la liberté de dire ce que je ressens sans mettre à l'épreuve devant le Seigneur. Tu penses que tu as raison, mais en fait pas. Le jugement, c'est un avertissement. Est-ce que tu entends volontiers cet avertissement ou pas? Ça a à voir avec le royaume de Dieu des cieux. Chapitre 7, verset 2, Matthieu 7, 2. Enfin, verset 1, il commence. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Combien souvent est-ce que tu vois les fautes des autres? Tu commences à critiquer, à murmurer, à t'énerver. On parle beaucoup des autres. Mais tu ne te demandes pas si tu es meilleur. Peut-être que ton problème qui est caché, tu ne le connais pas. Peut-être qu'il est plus grand. Je veux pas dire que nous ne devons pas dire la vérité les uns aux autres. Mais si nous mesurons toujours les autres, ce n'est pas ça, c'est pas très bien. Parce que si tu dois toujours mesurer les autres de ta mesure, alors ça revient vers toi. On te mesure avec la mesure dont tu mesures les autres. C'est de nouveau un avertissement. On voit aussi au chapitre 10, Matthieu 10, verset 15. Je vous le dis en vérité. Bien sûr, de nouveau, ça parle du jugement. Au jour du jugement, je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorre sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Que sa propre ville, ce peuple-là. Seigneur, le jugement. Ne pense pas que le Seigneur ne va pas juger son peuple. Et où est-ce qu'on en est? On était au chapitre 10. Alors ensuite, on voit au chapitre 11, verset 24. On commence au verset 22, Matthieu 11, 22. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyre et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous, que son propre peuple. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Comme si ça arrive, ainsi, nous, les croyants qui connaissons la vérité et que nous qui ne la pratiquons pas, et même nous enseignons aux autres à ne pas la faire, nous empêchons les autres de pratiquer la vérité. Penses-tu que nous sommes différents qu'eux dans ces versets? Penses-tu que nous sommes différents d'eux? Est-ce que nous ne sommes pas, c'est pas pareil? Il n'y a pas de jugement. Il y a bien assez de jugement. On le voit encore au chapitre 12. Tu vois, c'est l'évangile du jugement. Le jugement, ça fait partie de l'évangile. Est-ce que tu as déjà entendu parler de l'évangile du jugement?
Non.
Chapitre 12, versets 6 et 13. Or, je vous le dis, il y a ici quelque... non, c'est pas ça. Chacun devra rendre compte de chaque mot qu'il a prononcé. Mais je... De paroles vaines qu'il a prononcées. Vaines. Combien de mots vains sortent de ta bouche? Aucun. C'est verset 36, en fait, Matthieu 12, 36. Une parole vaine. Tu peux dire, hein, je n'ai dit aucun mot méchant ou mauvais, mais simplement une parole vaine. Parole vaine. Sera jugée, même une parole vaine sera jugée, mais non. C'est combien pire c'est si tu mens, même en tant qu'ancien, même en tant que frère conducteur. Ce n'est pas juste des paroles vaines. Même si déjà une parole vaine est jugée et que tu dois en rendre compte, combien plus des paroles menteuses, trompeuses. C'est pas étonnant que le psaume 120 dise « Seigneur, sauve-moi de la langue menteuse, lèvres menteuses, paroles trompeuses. » verset 41. Le Seigneur a dit, les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Seigneur, c'est même plus lui qui juge directement, mais les hommes de Ninive. Même Jonas ne voulait pas y aller. Où est-ce qu'il est, Jonas? Yona. parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Est-ce que tu peux te représenter ça? Ici, plus que Jonas, c'est Jésus-Christ. Et ils ont entendu personnellement les paroles de Jésus-Christ, qui est plus grand que Jonas. Et malgré tout, ils ne l'ont pas cru, ils ne se sont pas repentis. Bien sûr que leur cœur a su que Jésus-Christ avait raison. Mais malgré tout, par jalousie, ils ont voulu le chasser pour ne pas perdre leur position. En tant que pharisien, en tant que scribe, comme ancien du pays, je vous mets en garde contre le fait d'avoir une position. Est-ce que ça fait pas tellement d'années que j'en parle et que je l'ai toujours dit, que je vous ai mis en garde contre le fait d'être conscient d'avoir une certaine position. Verset 42, toujours de Matthieu 12, la reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Jour du jugement, quand cette reine du Midi d'Éthiopie sera assise tout devant, là tu n'as plus rien à dire. Parce que tu m'en sois, c'est trop lointain. Moi je vis en Californie, et si c'est l'Allemagne, c'est beaucoup trop loin pour venir. Oui, je te dis oui. Seigneur, est-ce que je dois y aller? Souvenez-vous de cette reine du Midi. Alors là, tu viens, si tu te souviens d'elle, tu viens. Maintenant, dans Jean 5, il y a beaucoup d'autres versets, mais on les saute. On va dans Jean 5. Montre que le Seigneur n'est pas seulement venu pour sauver, mais aussi pour juger. Verset 22. Jean 5, 22. C'est bien Jean, hein, pas un Jean, mais Jean. Non. L'évangile de Jean. 5, verset 22. J'ai besoin d'une Bible avec des caractères un peu plus grands. Ou bien des nouvelles lunettes. Le Père ne juge personne. Ah, louez le Seigneur, tu vas dire. Regarde, j'arrive au point là. Le Père ne juge personne. Et il a remis tout jugement au Fils. Mais pourquoi? Parce que Jésus-Christ est devenu homme. Et pour ce Jésus, le Fils de l'homme, qui a passé au travers de tous les tests, tu n'as rien à dire. Seigneur, je ne suis qu'un homme. Non, tu ne peux pas dire ça. Moi aussi, j'ai été qu'un homme. Alors, qu'est-ce que nous devons dire? Si Dieu est là, tu dis, ah, mais j'ai un grand argument. Tu es Dieu, et naturellement, tu es parfait. Mais moi, je suis qu'un pauvre homme déchu. Mais devant le Seigneur, qui est parfaitement juste, tu n'as aucune excuse. Ne pense pas que c'est simple. Si on regarde au verset 27... Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Là, il y a vraiment une explication claire pourquoi le Père ne juge pas, mais qu'il a remis tout jugement au Fils. Et souvent nous pensons, oh Seigneur, oui, ceci, cela, nous avons tellement, mais nous avons oublié que quand le Seigneur t'a parlé droitement, si moi, en tant qu'homme, si le Fils, en tant qu'homme, il s'est habitué à obéir, toi aussi, tu le peux.
Ok,
encore le verset 30. Je ne puis rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est là que tu vois que le Seigneur est tellement qualifié. Et combien souvent nous connaissons la volonté du Seigneur et nous savons ce que nous devons faire et malgré tout, nous ne voulons pas. Nous ne tournons pas vers lui. Et nous avons tellement reconnu de la Bible et nous choisissons ce qui ne nous plaît pas, ce qui nous plaît plutôt. Parce que le Seigneur te donne le choix, la possibilité de choisir ce qui te plaît et ce qui ne te plaît pas. Dans Romains, nous avons encore quelques minutes à disposition. On peut lire Romains, je crois. Romains 2, verset 3. Et penses-tu au homme qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Nous enseignons volontiers. Je t'amène ces choses-là et une semaine plus tard, tu fais exactement ça. Et puis, une semaine après, c'est déjà pas mal. Si pendant t'as tenu pendant une semaine, c'est déjà pas mal. Le jour suivant, peut-être, tu fais exactement la même chose. Non seulement tu fais la même chose, mais tu fais encore pire. Et Paul a dit, le jugement t'attend. Ce jugement, tu n'y échappes pas. On le voit aussi au verset 5. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Seigneur Jésus, tu ne connais que l'amour de Dieu. Tu ne connais pas la colère de Dieu. Dieu peut aussi être en colère. Et je dis souvent, sa colère est aussi grande que son amour. Si son amour est grand, quand le jour du jugement vient, sa colère est aussi grande que son amour. La parole, la Bible, parle justement de cette colère. Si l'amour brûle, la colère, c'est encore plus chaud que l'amour. Non seulement ça fond, en fait. Non seulement ça brûle, mais ça fond, je pense. Quand c'est chaud, au plus grand degré, comme pour les amis, les compagnons de Daniel. Même quand tu es près du feu, tu es brûlé. Ça, c'est vraiment la colère de Dieu.
Après,
très un verset connu, le verset 14, Romains 14, verset 10. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Louez le Seigneur. Car il est écrit, verset 11, « Je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. » Verset 12, « Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » devra rendre compte. Louis le Seigneur. Personne ne va t'accuser. Tu n'as pas besoin d'avoir quelqu'un qui te plaint. Mais toi-même, tu vas tout apporter. Tu rends compte à, c'est toi-même qui rend, tu rends compte à Dieu pour toi-même. Il n'y a plus de... Maintenant, nous avons encore cet avocat auprès de Dieu pour nous, mais tu dois te repentir. Le Seigneur est là-haut, et c'est lui qui parle pour nous. Comment ce qu'on dit en allemand, c'est quelqu'un qui parle pour toi, un avocat. Un avocat, celui qui te défend devant le Père, mais seulement aujourd'hui. Et cet avocat, c'est celui qui sera à la fin le juge, celui qui te jugera. Il est aujourd'hui ton avocat, mais il sera ton juge à ce moment-là. C'est bon aujourd'hui de mettre tout en ordre devant le Seigneur. Parce que le Seigneur est notre avocat. Il parle en notre faveur. Il est la réconciliation pour nos péchés. Il l'a mis pour que nous soyons réconciliés avec le Père devant le trône de la grâce. Mais c'est valable pour aujourd'hui, pas pour plus tard. Par rapport à l'amour, c'est-à-dire que sa colère d'avant, c'est comme des braises, comme de la braise. Ensuite, on peut arriver dans 2 Corinthiens. On connaît aussi que nous connaissions la terreur de Dieu. C'est aussi important à connaître. Au 2 Corinthiens 5, 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Tous comparaître, tu ne peux pas être caché. Afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait. Pas juste par la foi. Ah, je crois. Oui, croire, c'est simple. Mais ce que tu fais, c'est important. Le bien ou le mal qu'il aura fait. Verset 11, connaissant donc la crainte du Seigneur, bien étant conscient que Dieu doit être craint. Ce n'est pas une très bonne traduction ici. C'est pas tout à fait fidèle au texte de base. Paul dit, connaissant donc la terreur du Seigneur, pas juste la crainte. La terreur. C'est un mot qui est très fort. Ça veut dire que par rapport au jugement, C'est vraiment, comment dire, c'est pas juste que tu crains, c'est que tu trembles. Tu trembles. Seigneur, nous devons vraiment être conscients. Comme la traduction Schlatter dit, nous ne devons pas juste savoir, connaître dans la tête, mais avoir cette conscience profonde que la crainte de Dieu, c'est comme une terreur du tribunal de Christ, que nous devons comparaître devant le tribunal de Christ. Si aujourd'hui, si tu ne te repens pas devant Dieu pendant ce temps de grâce, et encore pire, si tu as fait tellement de choses fausses et tu penses encore que tu as raison. Peu importe sur quelle base tu es devenu aveugle. Galates 5:5. Nous avons juste vu la moitié des versets, je me suis noté. Je veux juste vous convaincre que aussi dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, il est autant parlé du jugement que autant de l'Ancien Testament. Galates 5:5, pour nous c'est de la foi que nous attendons par l'esprit l'espérance de la justice. Nous attendons. Encore quel autre verset? Galates 6:5. Ah, peut-être que je me suis trompée. Galates 6:5. Non, c'est pas celui-là. Mais c'est pas grave. Je le trouverai encore, je chercherai, je vous le transmettrai demain. Mais il y a un avertissement ici. Alors il dit, verset 19, or, du chapitre 5, les œuvres de la chair sont évidentes. Il y a toute une longue liste, mais on n'a pas besoin de s'arrêter sur chaque mot. La magie, la rivalité, les querelles, les jalousies, est-ce que ça ne nous arrive pas? Les disputes à la maison, pas seulement dans l'église, au travail. La jalousie, les animosités, les disputes. Pas de problème avec ça. Division, les sectes, l'envie. L'ivrognerie. Et là, il dit, et les choses sont semblables, ça veut dire toutes sortes d'autres choses. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, le pauvre Paul, il doit tellement répéter les choses, dire tellement de choses. Ça doit être ainsi, parce que ça arrivait tellement souvent dans les églises. Qui doit les mentionner, des rivalités, des querelles, des jalousies, des divisions, des animosités, disputes. Il dit, comme je l'ai dit, j'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Oui, le Seigneur. Le Seigneur doit vraiment nous avertir. On continue. 2 Thessaloniciens 1. Nous avons encore quelques minutes, mais après on s'arrête. J'espère que c'est pas trop ennuyant pour vous. sur le parler du jugement, même si c'est ennuyant, c'est vraiment nécessaire pour nous.
Amen.
Si il parle, aux églises qui étaient si jeunes, ce ne sont pas des vieilles églises anciennes, c'est des jeunes églises qui vont encore l'écouter, qui ont encore des oreilles pour entendre. Mais les vieilles églises, elles ont quelques problèmes à écouter, elles ont l'oreille dure. Paul dit ici, je ne sais pas où il est, verset 3, je pense, non, verset 4, aussi nous nous glorifions de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance, de votre foi, au milieu de toutes les vos persécutions et des afflictions que vous avez supportées. C'est une preuve du juste jugement de Dieu. Ah, regarde, si quelque chose nous arrive, devait nous arriver, que ce soit des persécutions, des afflictions, des difficultés, afin que nous apprenions la persévérance, c'est une preuve du juste jugement de Dieu pour nous. Ne pense pas que tout est si clair, que nous nous endormons, tout va bien, nous ne mettons pas de pression, nous sommes dans le repos, et là on parle d'avertissement. Si tu as une telle attitude, ce n'est pas si bon, parce que ce sont la preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. C'est-à-dire que vos souffrances, c'est vraiment la preuve du jugement de Dieu pour nous aider à entrer dans le royaume de Dieu. C'est félicitations. Louez le Seigneur.
Amen.
Amen. Verset 6, car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de la puissance, au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Et ensuite, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Lorsqu'il viendra en ce jour-là, pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru.
Amen.
C'est pour ça que nous prions, c'est pour ça quoi aussi nous prions continuellement pour vous, et la prière est nécessaire, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation, qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. Verset 12, ainsi le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous, et vous serez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Merveilleux. Qu'est-ce que nous voulons avoir quand le Seigneur revient? La gloire ou le jugement? Ou la punition? Les chrétiens ne parlent plus du tout de la punition. C'est trop dur.
Amen.
Mais la parole en parle, et Paul parle ainsi à ces jeunes églises fraîches. Ce sont des nouveaux chrétiens qui doivent connaître la vérité. Malheureusement, avec le temps, nous oublions cela. À la fin, nous sommes tolérants. Et nous supportons tout. Nous pensons que nous sommes très spirituels si nous faisons cela. Et en fait, nous détruisons en fait l'œuvre dans les jeunes gens. Dans Hébreux 9, nous connaissons aussi tous, connaissons bien Hébreux, l'Épître aux Hébreux. Verset 7, Hébreux 9, 27, pardon, presque à la fin. Hébreux 9, 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et ensuite c'est terminé. Ne pense pas qu'après la mort tout va bien. Mais après quoi vient le jugement? Le jugement. Nous devons tout mettre en ordre aussi longtemps que nous vivons. Aussi longtemps que nous pouvons dire aujourd'hui. Parce que tu ne sais pas quand ça s'arrête, quand tu arrêtes de vivre. Quand tu vas mourir, ça tu ne sais pas. Mais après la mort, c'est sûr, c'est certain que le jugement vient. Ainsi, maintenant, dans ce temps, dans notre temps, dans ce temps où nous vivons, pendant que nous vivons encore, réconciliez-vous avec Dieu en tant que chrétien. Je ne parle pas des non-croyants. C'est pour ça que nous avons cette fête, la fête de la réconciliation, le jour de la réconciliation. Nous avons cette opportunité aujourd'hui. Nous devons l'utiliser, la prendre pour être réconciliés avec Dieu et être pleinement réconciliés avec lui. Parce qu'il y a un jugement. Ou est-ce que tu n'as aucune crainte de ce jugement? Pourquoi chaque année tu payes tes impôts? Parce que tu es si fidèle? Pas seulement. Mais parce que s'il y a quelqu'un qui vient frapper à ta porte, quelqu'un du département des finances, ça aussi c'est un facteur. Ou pas. Je sais pas ce qui est comparable pour toi. C'est ainsi, il y a le jugement. Le jugement vient. Et ensuite, chapitre 10, Hébreux 10. Verset 30. Hébreux 10, 30. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple, jugera les incroyants, il a dit. Non. Le Seigneur jugera les incroyants. Non, le Seigneur jugera son peuple. Qui est son peuple?
Israël?
Seulement les Juifs? Pas les croyants allemands? Pas nous? Le Seigneur jugera son peuple. Et ensuite il dit, verset 31, c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est des mots qui nous guérissent. Ça va nous traiter, nous guérir. J'espère que tous nous pouvons entendre une telle parole. Même C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Verset 12, chapitre 12, pardon, à la fin. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Verset 29. Hébreux 12, 29. Est-ce que vous chérissez tous ce verset ou pas?
Amen.
Jacques, Pierre, Apocalypse, nous n'allons pas les voir, tous ces versets. Mais c'est vraiment l'introduction pour le jugement, pour cette section du jugement, pour que nous chérissions aussi. Nous n'avons pas la crainte du Seigneur. Et maintenant, vous comprenez pourquoi le Seigneur a vraiment plaisir à ce point important que nous traitions le sujet du jugement. Ça nous soigne, ça nous traite, ça nous guérit, ça nous... la prévention de beaucoup de choses, et ça nous conduit dans un chemin de la justice et de la sainteté. Afin que nous atteignions ce but glorieux, louez le Seigneur.
Amen.
Est-ce que nous pouvons encore un peu prier ?